Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Billy Van Lutumba.
Pour vous informer en cette soirée sur Radio Kapi, c'est tout d'abord cette réflexion des gouverneurs des cinq provinces de la partie est de la RDC depuis ce lundi à Goma. Ils tentent de peaufiner des stratégies communes pour élever les défis de développement de leurs entités. Processus électoral lancera question dans ce journal avec la clôture de l'opération de réception et traitement des candidatures depuis hier dimanche. Dans la province du Kwilu, plus de 1300 candidatures ont été enregistrées dans l'ensemble de la province, dont 300 femmes. Ulrich Crépine Nampeibona, chef de division des missions adjoint MSF en RDC pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema, est invité de ce journal. Il nous parle des interventions des MSF dans la zone de santé de Salamabila. Pour votre choix de vous informer sur Radio Kapi, nous vous disons merci, chers auditeurs. Bonsoir et bienvenue donc à votre journal. Dans le Nord Kivu, les gouverneurs des cinq provinces de l'Est de la RDC réfléchissent depuis ce lundi à Goma sur les stratégies communes visant à relever les défis de développement de leurs entités. C'est la première conversation régionale organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD et la MONUSCO. Cette activité, qui va durer 3 jours, est coordonnée par le ministère du Congolais du Plan. Bernardin Nyangi nous en parle.
Accompagné des membres de leur gouvernement provincial, les gouverneurs du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri et Tanganyika vont réfléchir pendant les 3 jours sur les réponses coordonnées aux problèmes de développement, sécurité et aux défis environnementaux dans leurs provinces sœurs. L'objectif, selon un expert du PNUD, est de promouvoir la coopération entre ces provinces confrontées généralement aux défis similaires. Isaac Moussokoro Mayaya.
Au-delà des crises de sécurité, il y a des catastrophes naturelles et des changements climatiques qui ont connu des répercussions qui dépassent les cadres d'une seule province. À noter aussi les défis de développement par la faible présence de l'autorité de l'État dans certaines zones. Ces provinces de l'Est connaissent aussi des réalités sociopolitiques similaires étant donné qu'elles font face à la zone est africaine.
Au terme de ces 3 jours de conversation, les 5 gouverneurs devraient produire un plaidoyer commun pour la coopération interprovinciale dans des secteurs du développement, la prévention de la crise sécuritaire et des réponses aux effets du changement climatique et des catastrophes naturelles. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Nous allons à Kalimi, où on parle du retour de la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, plus de 2 semaines après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle. À cette occasion, elle s'est adressée à la population à la place Kisebwe. L'autorité provinciale appelle les fils et filles du Tanganyika à l'unité et à bannir les conflits qui retardent le développement de la province du Tanganyika. On écoute Julie Ngungwa dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
L'heure des élections a sonné. Soyons soudés et cessons de créer des problèmes. Notre province est en train de reculer. Nous avons perdu 3 mois sans rien faire au moment où il y a ceux qui provoquent des problèmes et cela n'avance pas la province. J'ai besoin de vos soutiens pour le développement de notre province du Tanganyika. J'ai la foi et la conviction que vous m'aimez et vous allez m'accompagner. Le chef de l'État m'a dit de retourner dans la province pour continuer avec le travail ensemble avec les fils et les filles du Tanganyika. Ce n'est plus le moment de se tirailler encore. Mettons nos conflits de côté. Lorsque nous visitons d'autres provinces, nous constatons que ces provinces évoluent. On arrange des routes par exemple, mais ici chez nous, c'est seulement des conflits qui ne font que reculer la province du Tanganyika.
Actualité dans la province de l'Ituri à présent, le soldat des FRDC qui a abattu 13 personnes samedi à Chomia, à environ 60 km de Bunia, est aux arrêts. Il a été interpellé la nuit à Kiaseni, dans le territoire d'Irumu. D'après les sources concordantes, le suspect qui était recherché a été appréhendé par les éléments des forces de l'ordre avec la collaboration des jeunes alors qu'il tentait de quitter nuitamment la zone sur une moto. Une arrestation saluée par la société civile ainsi que la notabilité qui souhaite que ce militaire soit jugé au cours d'une audience publique. Elle souhaite également que les familles des victimes soient indemnisées. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Il est presque 19h lorsqu'un Ndombe Upeti Baby est aperçu pour la première fois depuis son acte dans un restaurant à Chomia. Des jeunes alertent aussitôt la police pour interpeller le militaire qui appartient à l'unité marine de la police de Gobu, mais il avait déjà quitté le lieu au moment où arrivent les policiers. Des jeunes se mobilisent alors pour tenter de le retrouver. Cette fois, c'est dans une station-service qui se présente avec un conducteur de moto-taxi qui doit l'acheminer à Kasenyi, un autre centre de négoce à 7 km plus loin. Un groupe de jeunes tente de le maîtriser en vain. Il s'échappe, mais son arme chargée lui est arrachée. Quelques heures plus tard, avec le concours d'une dame, il est repéré dans une maison d'habitation. Grâce à l'intervention cette fois des militaires, des FADC et de la police, il est finalement arrêté puis acheminé à Kasenyi où une audience foraine était prévue ce lundi, indique l'avocat général près la cour militaire de l'Ituri, Kumbungoma, qui séjourne sur place. Pour rappel, le caporal a tiré à bout portant sur 13 personnes, dont 10 enfants de moins de 10 ans. C'était après avoir accusé sa belle-famille, selon les services de sécurité, de pratiques de sorcellerie sur son enfant décédé dans une formation médicale jeudi dernier à Chomia. Bounia Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Plus au centre du pays, la Commission provinciale Justice, Vérité, Justice et Réconciliation lance officiellement ses activités ce mardi à Kananga. Plusieurs personnalités, acteurs et différents partenaires des Nations Unies venant de Genève, notamment du BCNUDH, participeront à cette cérémonie qui sera présidée par le ministre national des Droits Humains. Déjà ce lundi, un atelier de validation des textes légaux a été organisé avec toutes les parties prenantes. Cette commission a été créée à la suite des violences entre la milice Kamuina-Nsapu et les FRDC entre 2016 et 2017, ayant causé des graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Déjà, les victimes de ces événements au Kasaï, qui attendent toujours leur indemnisation, veulent voir la commission révéler à la face du monde ce qui s'est réellement passé dans la région. Mirante Mulumba, leur président, l'a dit à François Kadima.
Il n'y a pas eu la vérité sur ce qui s'est produit. Alors, la commission va s'atteler, c'est pour savoir quelle est la vérité. Pourquoi plusieurs compatriotes ont été tués? Pourquoi plusieurs femmes ont été violées? Pourquoi le Kasaï a connu le carnage? Et la vérité doit être connue. C'est pour permettre au Kasaï de ne pas revivre ce que nous avons vécu hier. Non seulement la quête de la vérité, la quête de la paix, mais aussi la justice. Ici, la commission Paix, Vérité, Justice et Réconciliation doit connaître effectivement, parce que ce n'est pas presque tous les acteurs qui doivent être livrés à la justice. La commission doit travailler pour se rassurer exactement quels sont les acteurs qui se sont impliqués de manière farouche à semer la désolation dans l'espace Kasaï. Connaître les motivations qui ont permis à ce que ces acteurs se livrent à préjudicier beaucoup de compatriotes kasaïens. Et c'est à la commission qui doit apprécier le degré d'implication de tout un chacun. Mais aussi, la commission va réconcilier les communautés divisées. La commission doit mettre ensemble toutes les parties litigantes, les parties qui ne se parlaient pas.
Dans la province du Kwilu, l'opération de réception et traitement des candidatures s'est clôturée hier dimanche 23 juillet, conformément à la date prévue par la CENI après rallonge de 7 jours. Plus de 1300 candidatures, dont 300 femmes, ont été enregistrées dans l'ensemble de la province. Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Kwilu, qui donne ses statistiques, toutes ces candidatures déposées proviennent d'au moins 400 listes. Jean-Robert Mouyensé explique au micro de Irène Bauma.
Nous venons de clôturer l'opération de réception et traitement des candidatures dans la province du Kwilu. À un jour de la clôture, les statistiques se présentent de la manière suivante. Nous avons 426 dossiers reçus, ce que nous appelons les listes. Et par rapport aux candidats, nous avons 1390 candidatures qui sont réparties de la manière suivante. Nous avons 1076 candidatures masculines et 314 candidature féminine. Nous tenons à remercier tous les partis et groupements politiques ainsi que les candidats indépendants qui sont venus nombreux pour déposer les candidatures dans les 7 circonscriptions dans l'ensemble de la province du Kwilu. Au stade actuel, nous devons attendre que l'Assemblée plénière de la CENI puisse se réunir afin de publier les listes provisoires. C'est en ce moment-là que nous allons savoir combien de candidatures qui sont déclarées recevables pour la province du Kwilu.
Nous restons dans la même zone et pour parler aussi toujours de des élections, les candidats députés nationaux de la province du Maïndombé en général, surtout ceux des territoires, ont éprouvé d'énormes difficultés pour le paiement de leur caution afin de leur permettre de déposer leur dossier. Cela à la suite de l'absence des banques relais dans les agglomérations où se trouvent les bureaux des réceptions et traitements des candidatures. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le président national du parti politique Alliance des démocrates pour le réveil du Congo et mandataire principal du regroupement politique à nous de bâtir le Congo. C'était après la clôture de cette opération à travers toute l'étendue du territoire national congolais. Pour Néron Nestor Lomeka, la communication et le transport font défaut dans le Maïndombé, tout doit passer par le chef des institutions provinciales. Néron Nestor Lomeka dans cet extrait choisi par Irène Bauman.
Je suis le mandataire principal du regroupement à nous des partis le Congo ANB. Comme il y a eu des candidatures qui ont été déposées, je suis obligé de faire un tour à travers notre province pour voir l'évolution de tous nos candidats. Vraiment, il y a eu beaucoup de difficultés. Il n'y a eu pas assez d'engouement. Et surtout, Maïndombé, la grande difficulté est que il n'y a pas de banque à travers des territoires. Il y a une seule banque à Inongo. C'est que les partis doivent avoir des notes de perception à partir des déjeuners d'Inongo, faire des versements à Inongo. Maintenant, voyez un peu notre province. Les moyens de communication sont difficiles. Mais il faut maintenant faire parvenir les preuves de paiement dans les différents centres des circonscriptions électorales. Alors c'est ça ce qui a fait vraiment beaucoup de difficultés. Ça fait qu'il n'y a pas assez d'engouement que nous avons senti au niveau des bureaux CENI. Pour notre regroupement, Oshoué, Inongo, tout s'est bien passé. Le message est que la population doit savoir se prendre en charge, doit se réveiller pour le décollage, les changements de notre territoire, pourquoi pas les changements de notre province.
Nous nous rendons dans le Kasaï oriental où le violon ne s'accorde pas entre l'inspection générale des finances, IGF, et le gouverneur de province après la découverte il y a quelques mois des deux comptes fictifs ouverts par l'exécutif provincial. D'après une correspondance adressée au gouverneur de province datée du 18 juillet dernier, l'inspection générale des finances déplore le mauvais traitement infligé à la délégation de l'IGF en mission d'encadrement auprès de la province. L'autorité provinciale sollicite l'implication du président de la République dans cette affaire. Des explications de Esther Dalafina.
C'est depuis la découverte au mois de mai dernier de deux comptes non déclarés par le gouverneur de province que les torchons brûlent toujours entre l'exécutif provincial et l'IGF. Pour preuve, dans une correspondance datée du 18 juillet dernier, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, déplore les mauvais traitements subis par les inspecteurs en mission d'encadrement auprès de la province. Selon Victor Batoubenga, les inspecteurs ont été malmenés par les éléments de la police nationale congolaise commis à la garde du bâtiment du gouvernorat. Au vu de graves violations découvertes dans l'encadrement des dépenses et recettes, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, estime que cette démarche cache la volonté du gouverneur de se soustraire à l'encadrement des dépenses. Au cours d'un point de presse tenu ce week-end, le gouverneur de province parle d'un problème de qualité et de compétences. Patrick Mathias Kabea sollicite l'implication du chef de l'État.
Il y a un problème de qualité et de compétences et d'immixion ou de congestion. C'est moi qui appelle les chefs. La province saisit le chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions dans ses dossiers avec l'IGF.
Signalons que les comptes non déclarés Solidarité Kasaï Oriental et Agripel sont toujours bloqués sur ordre de l'IGF. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, le mot d'ordre appelant des manifestations ce lundi lancé par des mouvements citoyens et groupes de pression à Goma a été partiellement suivi. Dans certains quartiers considérés chauds de la ville, les manifestants ont barricadé la chaussée avec des pierres, ce qui a perturbé le déroulement normal des activités commerciales, notamment dans la partie nord de la ville. Toutefois, les activités ont repris en début d'après-midi après quelques heures de perturbations. La population réclame la baisse et la stabilisation du taux d'échange. Un dollar américain qui se change aujourd'hui à 2600 francs congolais. Explication de Denise Lukeso.
Les quartiers situés dans la partie nord de la ville se sont réveillés sous une forte tension. C'est notamment Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, l'axe Mutinga, deux lampes, rue communément appelée 1 km témoin et une partie du quartier Virunga. Des manifestants en colère ont placé depuis hier dans la soirée jusqu'au petit matin ce lundi des barricades sur la chaussée. Ils réclament la baisse du taux d'échange. Déployés dans ces zones, la police a procédé à l'évacuation des grosses pierres et autres barricades. Cependant, le conseil communal de la jeunesse de la commune de Karisimbi désapprouve cette approche de s'attaquer aux infrastructures routières. Claude Rougaud.
C'est vrai que la revendication est juste. Nous tous, nous sommes en train de mettre pression par la voie pacifique au gouvernement. Mais ceux qui ont manifesté en brûlant le pneu, en jetant le projectile sur les chaussées, ça c'est une pratique qu'on est en train de fustiger et condamner. Nous sommes en train de demander à tout le monde de nous mettre ensemble en vue de revendiquer par la non-violence la baisse du taux d'échange.
Notons cependant que les activités commerciales, tout comme les trafics urbains, ont fonctionné normalement vers le centre-ville et dans la partie ouest de la ville. Goma, Denise Bukesso, Radio Capi.
Actualité internationale.
Au moins 80 000 personnes ont été déplacées ces trois derniers mois dans le centre du Nigeria, théâtre des violences intercommunautaires sanglantes où l'armée a envoyé des renforts, a déclaré un responsable local. Depuis mai, l'état du plateau est en proie à des graves violences entre agriculteurs et éleveurs. Selon les autorités locales, les attaques ont fait plus de 300 morts. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre des tensions et conflits meurtriers autour de l'exploitation de la terre et des ressources en eau. Le centre gabonais des élections a publié lundi une liste des 19 candidats à l'élection présidentielle prévue fin août, soit 5 de plus qu'en 2016. D'importantes figures de l'opposition comme Alexandre Barrault-Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité et Paulette Missambo de l'Union Nationale sont en lice. Ils espèrent fédérer une candidature commune d'ici le 26 août. L'opposant Jean Ping, arrivé second à la présidentielle de 2016, a annoncé qu'il ne se présentera pas au scrutin cette année. Ce dernier dit refuser de se présenter à une élection pipée d'avance.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les gens doivent s'asseoir et réfléchir autour d'éventuelles menaces sur la biodiversité. Nous allons plutôt vous parler de notre invité qui est Ulrich Crépine Namfembioua, chef des missions adjoint MSF en RDC pour les provinces du Sud Kivu et Maniema qui est invité de ce journal. Suivez.
Monsieur Ulrich Crépin, bonjour.
Bonjour madame.
Quelle opportunité pour MSF de présenter en ce moment ces réalisations de Salamabila?
Une très grande opportunité. C'était avec un grand plaisir que nous avons pu rencontrer la presse ici à Kindu et bien sûr les autorités locales pour pouvoir parler de nos activités à Salamabila. L'objectif principal c'était de revenir brièvement sur tout ce que nous sommes en train de faire en termes d'implémentation de notre projet qui a commencé depuis les années 2019, l'évolution de ce projet, comment nous collaborons avec la communauté, avec les leaders communautaires et l'implication bien sûr de cette communauté dans l'évolution du projet.
En quoi est-ce que ces réalisations ont impacté pour changer la vie des populations?
Vous l'avez constaté avec les données, les chiffres que nous avons présentés, il y a une forte mobilisation communautaire, la fréquentation au niveau de ces structures de santé que nous appuyons, elle est énorme et vous voyez que effectivement les services de santé qui sont mis à la disposition la population et ils sont utilisés par cette population. Et nous sommes très ravis de cette fréquentation, de cette implication de la population de Salamabila dans la mise en œuvre et aussi l'utilisation des services que nous avons en collaboration avec les autorités sanitaires mises à la disposition de la population.
Pourquoi un focus de MSF sur Salamabila et pas ailleurs? Est-ce que cette expérience pourrait s'étendre dans d'autres territoires?
Je ne parlerai pas d'un focus. Depuis les années 2019, nous avons constaté un besoin médico-humanitaire. C'est ce qui a justifié la présence de MSF dans la zone de santé de Salamabila. Et effectivement, aujourd'hui, le besoin est là. Voilà pourquoi nous sommes encore présents et nous continuons de porter assistance à cette communauté. Il faut mentionner que nous faisons aussi de la surveillance médico-humanitaire, épidémiologique dans toute la division provinciale de Maniema. Et nous le faisons en collaboration avec les autorités sanitaires, avec les autorités à tous les niveaux. Et nous pensons que en cas de besoin, MSF pourra toujours répondre là où on va constater les besoins.
Concrètement, en quoi consistent ces réalisations?
Les réalisations, si vous voulez parler de Salamabila, c'est beaucoup plus aujourd'hui l'appui aux structures de santé à différents niveaux, précisément au niveau communautaire, là où nous sommes beaucoup plus focalisés avec l'implication communautaire pour la prise en charge des maladies qui tuent le plus, comme le paludisme, la diarrhée, chez les enfants de moins de 5 ans, et bien évidemment aussi à différents niveaux, au niveau des structures de santé, au niveau primaire, les centres de santé, je veux dire. On appuie quelques structures de santé là où on constate qu'il y a un besoin, là où il faut améliorer l'accès aux soins de santé et nous Nous sommes aussi au niveau de l'hôpital de Salamabila où nous appuyons aussi les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et aussi les cas des urgences médico-chirurgicales. On est vraiment focalisé là-dessus et l'objectif principal dans tout ça, c'est de limiter les décès au niveau communautaire, améliorer l'accès aux soins de santé pour cette population dans la zone de santé de Salamabila.
On peut avoir une idée sur les chiffres de ce que vous avez déjà fait?
Aujourd'hui, nous avons fait plus de 59 000 consultations et les 6 premiers mois de l'année. Et ça, c'est quelque chose que on est tous d'accord là-dessus avec les autorités sanitaires au niveau provincial. On a traité plus de 8 000 cas de paludisme simple, des cas de diarrhée. Plus de 1 500 cas ont été pris en charge, traités et guéris. On a fait plus de 900 références au niveau primaire, c'est-à-dire au niveau des centres de santé, vers l'hôpital de Salamabila, pour ne citer que ces quelques données-là. Mais en général, vraiment, nous avons des données aujourd'hui qui nous encouragent et qui encouragent aussi les partenaires et la population que nous sommes en train d'appuyer.
Comment faire pour pérenniser ces acquis de MSF une fois arrivé fin projet?
Nous pensons que ce qu'il faut faire déjà dès le début, parce que quand on commence un projet chez MSF, on réfléchit déjà à tout un mécanisme de comment et quand ce projet pourra prendre fin. C'est des questions difficiles à aborder, mais nous pensons que l'approche communautaire est l'unique option que nous avons aujourd'hui. Et cet engagement communautaire est focalisé sur la population locale, sur les autorités à tous les niveaux et aussi au niveau provincial. C'est ça qui va nous garantir un jour, si jamais MSF n'est pas là, la population peut s'autogérer et continuer à maintenir cette qualité de soins que nous avons dans la zone de santé de Salamabila.
La zone de santé de Salamabila est une zone rouge. Est-ce que vous êtes confronté à des difficultés?
Oui, bon, écoutez, une zone de santé rouge, d'accord, mais pour nous aujourd'hui, nous pensons que MSF, nous nous sentons à l'aise de travailler dans la zone de santé de Salamabila parce que nous avons été acceptés par la population. Nous avons réussi à implémenter beaucoup des activités à la périphérie de Salamabila, dans les aires de santé et nous continuons de faire ce travail.
Monsieur Ilerich Crépin, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et voilà qui met un terme à cette édition de journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivie.